Il nous a présenté son projet comme étant un projet écologique.
Eiffage, Somival et Dinalim prévoient de construire une usine pour produire 45 000 tonnes de granulés de bois torréfiés par an sur la commune de Vian en Corrèze. En janvier 2017, l'information était résumée en une ligne dans le bulletin municipal de Vian, qui faisait le compte-rendu du conseil municipal de Vian de septembre 2016. Entre deux informations diverses, on pouvait lire « Installation de l'entreprise Somival sur la ZA de Vian-Bujat, le dossier est en très bonne voie ». Le 27 février 2017, le journal La Montagne a présenté le projet dans un article intitulé « Des investissements à hauteur de 20 millions d'euros et une quinzaine d'emplois en Haute-Corrèze ». Somival a présenté son projet au Salon Bois Énergie de Limoges les 30 et 31 mars 2017. En mai 2017, après plusieurs conseils municipaux à Vian, sans que la question ne figure dans les comptes rendus, le conseil municipal présente un entretien avec Jacques Le Guen, qui est chargé du projet chez Somival. Vous pouvez retrouver ces documents sur le site internet de Radio Vassivière. À Radio Vassivière, on ne lit pas assez systématiquement toute la presse régionale, et on en parle souvent dans l'équipe d'ailleurs. On n'avait pas vu passer l'article dans La Montagne, édition Corrèze, en février. On n'était pas au Salon du Bois Énergie de Limoges en mars. Et on n'avait pas non plus lu les bulletins municipaux de la commune de Vian. Résultat, on a été mis au courant un peu tard, par un adhérent de la radio en pleine assemblée générale au mois de mai. Mais mieux vaut tard que jamais. Voici un montage à partir d'un reportage fait sur place à Vian mercredi dernier, d'ailleurs avec aussi des gens qui habitent là depuis très longtemps et qui disent « Viam », avec des habitants proches de la zone, la fameuse Garbois de Bujat-Vian, qui n'a quasiment jamais servi à rien. Reportage entrecoupé d'extraits d'un coup de téléphone à Pierre-Henri Gaudriot, qui est à Paris. C'est un ancien vice-président UDF du Conseil Général de la Creuse, dirigeant de plusieurs sociétés industrielles et responsable de Somival, qui porte ce projet à Viam. Vous pouvez commencer par raconter comment vous avez été mis au courant de ce projet-là. Comment là, on est au mois de juin, il paraît que les travaux sont prévus pour juillet. Quand est-ce que vous avez été mis au courant?
De qui dire?
Pierre Nouaille, habitant de Condo.
Donc ça fait 2-3 ans qu'on entend parler d'une usine à transformation de pellets torréfiés.
La mairesse de Vian nous a remis...
Alain Scharf, habitant de Condo.
Un document le soir du premier tour de l'élection présidentielle, en mairie. Il nous a remis un document de 4 pages, produit par le consortium qui veut construire l'usine. Un document de présentation de cette usine, qu'elle avait, reçue quelques semaines auparavant, je crois. C'est un document qui avait été présenté, je crois, au Salon du Bois à Limoges, en avril. Et ce document, de 4 pages, explique le principe de l'usine, présente tous les éléments du permis de construire. Enfin, bon, c'est un document de présentation.
Donc, 2-3 ans ou il y a
oui,
deux mois?
Oui, le qui dire. Sur le qui dire.
Donc le qui dire est supérieur au document officiel.
Voilà. Populis populace, ça fait 2-3 ans qu'ils commençaient à s'agiter sur cette usine.
Donc ils nous ont remis ce document.
Pellets torréfiés, combustible, bois énergie. Salon bois énergie de Limoges, les 30 et 31 mars 2017. La première unité industrielle en Europe de production de pellets torréfiés. Alors, vous êtes fier de recevoir la première usine en Europe juste à côté de chez vous?
Non, pas trop, parce que du coup...
Catherine Scharf, habitante de Condo.
On est allé voir qui faisait des pellets torréfiés. Et il y a une usine, il y a une seule usine pour l'instant dans le monde qui fait ça, qui se trouve aux États-Unis dans le Montana. Et quand on va sur le site, on est plutôt horrifié que content, en fait, hein, ou que fier.
Donc, sur le site internet, vous voulez dire, vous n'êtes pas allé sur le site dans le Montana?
Non, on ne s'est pas offert le voyage dans le Montana, mais déjà sur le site internet, c'est cauchemardesque, quoi. C'est une immense usine. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'il est dit que les odeurs sont pestilentielles ou nauséabondes. Donc voilà, ça, c'est pas très encourageant en fait. Donc la différence, c'est que ce serait une usine appelée normale, enfin à granulés normales, sauf que nous, les granulés, donc on aurait toutes les nuisances des usines appelées, c'est-à-dire le bruit, la poussière, etc. Et en plus, ils vont les torréfier, ils seront torréfiés, et donc là, c'est de l'expérimentation, et là, on est effectivement inquiet.
Alors quand on a appris ce projet, on est allé voir visiter, se rendre compte in situ, on est allé voir deux usines de fabrication de granulés, puisque le pellet, en fait, c'est l'appellation anglaise du granulé. On est allé voir l'usine donc de Saint-Germain-Pré-Hermant, qui est dans le Puy-de-Dôme, et l'usine d'Aigleton, du groupe Farge. Et on a constaté autour de ces sites de production des nuisances importantes, à la fois des nuisances acoustiques, des nuisances de poussière assez fortes. Et juste une petite interruption. Est-ce qu'on doit dire qu'on a reçu le chef de projet de la Somival? Est-ce qu'il est venu de dire qu'il est venu chez nous?
Ah bah vous faites comme vous voulez, je sais pas.
Non mais parce que on va l'impliquer personnellement.
Ah bah impliquez-le, ouais. Je l'appellerai sans doute.
Oui. Ouais.
J'ai appelé Jacques Le Guen à son bureau à Limoges. Il m'a dit qu'il ne parlerait pas à la radio sur ce sujet et que je devais voir directement avec le PDG, Pierre-Henri Gaudriot, qui a son bureau à Paris. De prime abord, Pierre-Henri Gaudriot prend des précautions pour parler de ce sujet qu'il présente hors micro comme un sujet délicat et qu'il faut éviter de rendre anxiogène. Il fait quand même une petite présentation au téléphone.
Somival, d'abord, c'est juste en quelques mots une petite présentation. C'est une société ancienne dans la région qui a été créée par l'État dans les années 1960 avec en charge le développement régional et l'application des politiques publiques de régionalisation. Donc c'est un peu à ce titre-là que nous nous sommes intéressés à une infrastructure qui a été créée dans les années 2000 sur les communes de Bugeat et de Vian, donc une plateforme de 26 hectares qui avait été créée par les collectivités après la tempête de 99 pour stocker le bois et essayer de valoriser au mieux ce bois abîmé et de le transporter vers d'autres centres d'utilisation à partir d'une infrastructure ferroviaire qui avait été créée spécialement. Bon, voilà, donc sur cette plateforme existante, au milieu de ce massif forestier important là, qui est principalement sur le périmètre du parc naturel régional de Millevaches, le sujet qui nous avait été posé par les collectivités, par tout le monde, c'est comment utiliser cette infrastructure et comment réussir à partir de cette infrastructure et de ce massif forestier à créer un développement économique respectueux de l'environnement et facilitateur du développement économique local.
On lui a posé des questions très précises sur les nuisances provoquées par les sites en exploitation que nous avons visités, que nous avons aperçu, et les réponses qu'il nous a fournies nous ont encore plus lourdement inquiétés.
En fait, il s'implante ici pour deux raisons. Il s'implante parce qu'il y a une gare bois qui est utilisable à proximité, et donc ils pensent qu'ils feront repartir tous les pellets torréfiés par le chemin de fer, et aussi parce que c'est une zone où il y a énormément de bois. Alors leur projet
de matières premières.
Donc leur projet, c'est d'utiliser d'abord tous les andins, toutes les souches, tous les résidus, tous les rémanents des coupes rases, de les broyer, et puis d'en faire des granulés, ensuite de torréfier ces granulés, donc ça on y reviendra, et puis une fois que ces granulés sont torréfiés, on les réhumidifie pour en refaire d'autres granulés qui là seront expédiés. Alors, pour l'instant, ce que nous a expliqué ce chef de projet, c'est que la torréfaction ne sera pas la même que celle qui est utilisée dans le Montana. La torréfaction, elle est en expérimentation au CEA de Grenoble.
Centre d'études atomiques.
Commissariat à l'énergie atomique. Oui, en fait, le CEA a élargi ses compétences et ses champs d'investigation et de recherche à beaucoup de domaines physiques. Il mène une expérimentation justement de torréfaction. Le chef de projet a été très vague sur le fait que ça ne produirait pas d'odeur. Il nous a dit, ah mais le procédé américain de torréfaction produit effectivement des odeurs nauséabondes, il l'a validé. Et il a dit, mais nous, on va essayer de trouver une solution sans odeur. Et cette solution sans odeur, ils sont en train de la tester à une échelle très très réduite. Hein. C'est des volumes extrêmement réduits sur le site de Grenoble. Mais quand on lui a posé la question en lui disant, est-ce que cette expérimentation conduit à ce qu'il n'y ait pas d'odeur, il n'a pas répondu. Il n'a pas été très précis, il n'a pas dit il n'y a pas d'odeur. Il a dit, on essaye de trouver une solution où il n'y ait pas d'odeur. Ça, c'est le premier élément très inquiétant.
Voilà, alors ça aboutit à un projet un peu original, hein, qui consiste à la base à récupérer un combustible, enfin une matière du bois, qui est issue de l'exploitation forestière en partie des autres industriels qui interviennent dans ce secteur. Enfin, je rappelle, les grands centres. Le secteur industriel du bois est très développé dans cette région avec des acteurs majeurs dans le domaine du papier, dans le domaine des panneaux de particules, etc., etc. Donc qui ont des activités d'exploitation forestière importantes avec beaucoup de sous-traitants et qui ont sur l'ensemble des parcelles beaucoup de difficultés à faire reboiser ces parcelles ensuite et à valoriser au mieux une matière qui n'est pas utilisable dans leurs activités traditionnelles, donc de bois d'œuvre ou de bois de trituration. Voilà. Alors, nous sommes intéressés à ce sujet.
Parce que les odeurs nauséabondes, il faut savoir que, il l'a dit, il n'y a pas de filtre actuellement, il n'existe pas de filtre pour les supprimer.
Alors, ce qu'il propose, c'est de renvoyer ces odeurs, cette fumée qui sort de la torréfaction dans la chaudière bois et donc de les brûler. Mais ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'odeur à la sortie.
Ouais. Et c'est expérimental. Et il a bien précisé que c'est expérimental. En fait, il nous a présenté son usine comme une expérimentation. La partie torréfaction est vraiment expérimentale. Toute la partie granulation, enfin presse, broyage, etc. Elle est connue. Elle est dans une catégorie d'ICPE qui est connue.
Alors, Institut,
installation comprenant classé. Voilà classée et comprenant en fait une PE pour l'environnement.
Protection de l'environnement,
voilà, c'est ça. Et donc il a dit, mais sur la partie torréfaction, on est expérimental. En gros, vous avez la chance et vous allez participer à une grande aventure technologique expérimentale.
Parce qu'il n'y a pas que le CEA qui participe à l'expérimentation, il y a aussi un centre d'études espagnol qui, lui, s'est spécialisé dans l'agglomération de cette poudre pour faire des granulés.
Parce que la torréfaction, en fait, d'après ce qu'on a compris, on devient maintenant un peu spécialiste, torréfaction, en fait, les rémanents sont broyés avec trois étapes de broyage. Trois tailles de broyage différents. Ils arrivent en poussière dans cette tour qui fait quand même une vingtaine de mètres de haut. Et elle passe sur des plateaux avec une huile qui est montée à entre 280 et 300 degrés. Elle passe sur des plateaux pour être torréfiée. C'est ça le principe de la torréfaction.
Ça met une demi-heure. Ça tourne.
Oui, il y a un cycle d'une demi-heure. Alors, il nous a expliqué aussi que cette torréfaction fonctionnerait 24 heures sur 24. 365 jours par an, parce que cette tour ne peut pas être arrêtée pour des raisons économiques et même parce que cette torréfaction se fait sous vide.
Nous sommes intéressés à ce sujet, comment transformer ce bois énergie récupérable pour le valoriser. Un des problèmes du bois énergie, c'est justement d'être un matériau pas très facile à brûler et à transporter, parce que c'est un combustible qui est... Il y a de l'eau hein, qui est humide, on est avec des taux d'humidité qui sont en général de 30 à 50, 60% quand on les collecte dans la nature. Et puis c'est aussi des combustibles qui sont difficiles à transporter en raison de leur densité, quoi. Donc en général, c'est pas au milieu des grands massifs forestiers que les besoins d'énergie sont plus importants. Donc le sujet a été pendant un certain temps de chercher des pistes pour valoriser au mieux ce bois énergie. Donc on s'est intéressé, on a trouvé des technologies existantes en émergence, en tout cas on est un peu dans le secteur de l'innovation, qui consiste à utiliser ce matériau de relativement mauvaise qualité pour le sécher dans de bonnes conditions et pour le compacter, pour en faire un granulé, mais pas un granulé comme ceux qu'on rencontre dans le commerce aujourd'hui, blanc pour faire de la combustion classique utilisée dans les poêles domestiques, mais plutôt un combustible qui aurait été séché, torréfié, donc torréfaction étant un phénomène thermique, un traitement thermique qui permet de porter à 200-250 degrés pendant un temps très court le bois pour ensuite le compacter et le transformer en un granulé qui a des particularités qui seront très très proches du charbon aujourd'hui. Donc on a un combustible bois totalement biosourcé qui à l'arrivée va devenir un combustible substituable dans des installations industrielles au charbon. Alors le site de Bujavian se prête très bien à ça par la ressource disponible, ressource qui permet de valoriser un territoire, d'augmenter donc les replantations sur ce territoire en récupérant ces rémanents forestiers, enfin ce qu'on appelle les rémanents, c'est-à-dire c'est le bois non utilisable par les autres activités, et à le transformer sur une plateforme et de l'exporter ensuite en utilisant une infrastructure ferroviaire, donc avec un bilan carbone meilleur que si on utilise des camions pour utiliser les voies routières pour transporter ça. Voilà, à peu près en quelques mots. Alors le projet, il est né chez nous en tant qu'idée, en tant qu'étude. Ensuite, on a trouvé des partenaires qui sont associés. Un partenaire financier qui est une structure proche de la région Limousin, devenue Nouvelle-Aquitaine. Donc un fonds d'investissement qui a apporté des fonds à la société que nous avons créée. Et puis un groupe industriel, le groupe Eiffage, qui s'est intéressé au développement de ce nouveau produit pour en faciliter la transformation. Voilà. Donc cette société CIBV existe depuis un an. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, on est dans la phase instruction-autorisation du combustible. Donc le projet n'est pas encore défini totalement et les travaux de la plateforme sont des choses en préparation, mais qui ne sont pas encore directement programmés.
D'un point de vue purement physique, on a quand même des doutes sur le fait qu'ils puissent réinjecter les odeurs, parce que s'il y a une torréfaction sous vide, je ne vois pas très bien comment ils vont pouvoir réinjecter des odeurs dans une tour de chauffage. Voilà notre grosse inquiétude, elle porte surtout sur la torréfaction. Alors après, il n'y a pas que la torréfaction, il y a aussi le broyage. Les deux sites qu'on a visités, l'usine EO2 et l'usine Farge, en fait, les broyeurs sont de dimensions assez importantes et produisent un bruit extrêmement important. Et quand on lui a demandé comment il comptait mettre en conformité avec la législation sur les ICPE, il a été très vague. Alors il a commencé par dire qu'il n'y aurait pas de bruit, que son usine ne produirait pas de bruit. Et ensuite, il nous a dit, si on fait du bruit, on fera un mur anti-bruit, on fera un merlon. Alors là, on lui a montré qu'il y avait quand même une contradiction. Soit il ne faisait pas de bruit, soit il en faisait, mais il ne pouvait pas dire deux choses en même temps. Et sur le merlon, il s'est proposé de réutiliser les pneus de camion, parce qu'il faut savoir que le site industriel qui est envisagé a déjà été le lieu d'une unité de production de pneus de camion broyés, et le précédent exploitant a laissé sur le site tous ses déchets, en l'occurrence des pneus de camion broyés. Donc lui, la société Somival se présente comme très écologiste et a un projet de dépollution. En réalité, c'est pas une dépollution, ils vont réutiliser les broyats de pneus de camion, ils vont les déplacer et ils veulent s'en servir pour faire ce fameux merlon. Quand on lui a posé des questions très précises en acoustique sur ce merlon, il a commencé un peu à paniquer, parce qu'il a vu qu'on était un peu compétent en domaine acoustique, et que surtout, la particularité des merlons, c'est que les merlons n'absorbent pas le bruit, les merlons projettent le bruit, le réfléchissent. Et surtout, vont le réfléchir en direction de Bujat.
On parle de bruit, de 140 décibels produits par un broyeur en route. Comment vous imaginez que ça s'entendra aux alentours ?
Bon, écoutez, ça c'est un sujet que je connais assez bien. On est clairement dans des dossiers qui sont extrêmement réglementés. Il y a un ensemble d'équipements industriels qui sont prévus sur ce site, qui devront respecter des normes extrêmement précises. On est dans un pays où la législation dans ce domaine-là est extrêmement précise. Donc le bruit émergent en limite de propriété est forcément extrêmement réglementé. Il y a des moyens de réduire ce bruit en dessous des seuils autorisés qu'on respectera, bien évidemment. Enfin, moi ou d'autres, tous ceux qui seront en charge du projet auront l'obligation impérative de respecter ça. C'est beaucoup plus compliqué de faire un projet industriel quand on est en zone naturelle, sur un plan réglementaire, parce que on parle d'émergence de bruit par rapport au bruit ambiant, donc par définition dans une région très calme. Donc c'est un des problèmes majeurs sur le plan technique, c'est qu'en limite de propriété, on ne doit pas avoir émergence par rapport au bruit ambiant plus de je sais pas combien. Bon. Donc là on est, il n'y a pas de bruit ambiant, donc ça veut dire que notre niveau d'émergence est beaucoup plus difficile à tenir que si on était en zone urbaine. Mais voilà, ça fait partie des règles du jeu habituelles de ce genre de projet, et évidemment ils seront tenus. Donc bon, en plus, je vous invite à regarder la configuration du site. Il y a peu de riverains immédiats, à proximité immédiate. Après, il y a des riverains évidemment à quelques kilomètres, quelques centaines de mètres. Bon, je vois pas de problème insurmontable sur le plan technique, en tout cas pour respecter les règles dans ce domaine-là.
Il présente son merlon comme protégeant la ferme équestre qui se trouve à 250 mètres de l'unité de production. Et en fait, visiblement, je trouve qu'il a une attitude un peu d'apprenti sorcier. Il ne sait pas du tout, il sait pas comment gérer ce problème de bruit, qui va être très très puissant, très 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 fort. Parce que ces broyeurs, en fait, vont broyer les rémanents, c'est-à-dire les souches, issues des coupes rases, et ces broyeurs vont être d'une taille très importante. Puisque le broyage ne va pas être fait comme habituellement il est fait, il ne va pas être fait in situ sur le lieu des coupes, il va être fait à l'usine.
Alors ce qu'il nous a dit aussi, c'est qu'il avait fait une étude acoustique quand on a parlé du bruit. Alors ils nous ont dit que leur projet était très sérieux et qu'ils avaient fait une étude acoustique. Et en fait, on s'est rendu compte que non, pas du tout. Ils n'ont pas fait une étude acoustique en mettant des bruits sur le site et en regardant autour ce que ça donne. Eux, ils ont pris un logiciel qui se trouve dans le commerce normal, et ils ont pris un fond de carte IGN et ils ont appliqué l'un sur l'autre.
Ils ont fait du calcul, quoi. C'est fait une simulation par calcul. Ils n'ont pas fait du tout une simulation in situ, et surtout ils n'ont pas pris en compte des éléments très importants sur le plateau qui sont le vent, les variations de température qui ont une importance fondamentale pour la propagation acoustique. Et en fait, ils ont acheté un logiciel, ils ont fait une étude vraiment extrêmement basique. Et à plusieurs reprises, ils nous ont répété qu'ils avaient choisi ce site-là parce qu'il n'y avait personne autour.
Et donc c'est toujours sympa pour les quelques
sympa,
habitants qui sont quand même là.
On était quatre autour de lui et il nous a dit il n'y a personne autour. Et c'est au milieu des bois, il n'y a personne. Alors il dit mais nous on est là, nous. On est là, on estime, nous, qu'il y aura à peu près une trentaine de lieux d'habitation touchés par les nuisances, sonores et la poussière, par exemple.
Après, la poussière, l'odeur.
Les odeurs.
Et ouais. Sans oublier le mode de transport par camion, ouais. Que ça va être phénoménal, 60 camions au jour. Donc, toutes les routes vont être détériorées et tout. Ouais.
On a calculé que ça faisait un camion toutes les 10 minutes dans les horaires de travail, disons 8h midi, 2h 6h. Ça doit faire un camion toutes les 10 minutes d'approvisionnement.
Oui, parce qu'en fait, il doit approvisionner l'usine avec 100 000 tonnes de rémanents. Il faut qu'il apporte
par an.
Oui, là, on est sur des chiffres annuels. Donc, il veut produire 45 000 tonnes de pellets et pour ce faire, il annonce des besoins de 100 000 tonnes de rémanents. Donc, nous, on a fait un calcul, 100 000 tonnes de rémanents, il faut à peu près faire circuler entre 6 et 10 000 camions par an pour les rémanents. Hein. Parce que il faut savoir que dans les rémanents, vous allez transporter beaucoup d'autres choses que des rémanents. Et quand vous allez dessoucher, vous allez emporter des pierres, de la terre. Et alors, il a une étape de tri qui est prévue, qui est, d'ailleurs, elle aussi est très bruyante, qui fait partie des générateurs de bruit importants. Donc, il nous a présenté son projet comme étant un projet écologique. Il s'habille beaucoup de vert, il produit une énergie écologique, etc. Mais ce qu'il n'a pas du tout mentionné, c'est que ces 10 000 camions, je ne pense pas que ce soit des camions électriques et où ils ne tournent pas à l'oxygène ou à pédale. Donc ces 10 000 camions, il va falloir mettre du gasoil dedans pour les faire tourner.
Pour revenir sur la partie acoustique, c'est vrai que nous, on est riverains, donc on s'inquiète, mais je pense que la ville de Bugeat les habitants de Bugeat doivent aussi s'inquiéter parce que eux, ils sont sous les vents dominants. Ça veut dire que les vents vont emporter le bruit vers Bugeat, vers les habitations, en fait. Hein. Ce qui, pour l'instant, n'a pas du tout été ni expliqué aux habitants, ni mesuré, ni
évalué. La carte d'impact ne tient pas compte du tout des vents. Et notamment à Bugeat, il y a plusieurs des éléments touristiques qui devraient être un peu, à mon avis, qui devraient s'inquiéter, c'est le centre sportif, qui lui va se retrouver vraiment en plein sous les vents, et le CCAS d'EDF de Bugeat qui seront qu'à 700 mètres à vol d'oiseau de l'usine, et dont l'exploitation va être rendue très difficile par la présence d'un gros acteur industriel. Parce que là, on est quand même sur une volumétrie. Il faut savoir que c'est une usine qui aura une superficie de 27 hectares quand même. C'est pas une petite entreprise.
Donc toute la biodiversité va être détruite au niveau des insectes, des animaux. Il n'y aura plus de réserves naturelles vu qu'ils veulent prendre les jachères pour prendre toute la matière première pour faire leur pellet. Et puis à l'heure actuelle, au 21e siècle, faire du charbon avec de la matière fossile, c'est complètement débile. Voilà.
Oui, parce qu'en fait, ils veulent leur projet industriel, ces pellets torréfiés, en fait, ils les destinent aux centrales électriques EDF, aux centrales thermiques, et aux CPCU, aux centrales de production de chaleur urbaine. En fait, ils veulent substituer, leur but industriel et commercial d'ailleurs, c'est de substituer les pellets au charbon.
On prend les arbres et au lieu d'attendre des milliers d'années qui deviennent charbon, on accélère pour faire du charbon tout de suite. Exactement. C'est ça un petit peu ?
On le fabrique. Voilà. On va fabriquer du charbon.
Sur place, on voit des souches qui ont été apportées récemment.
Oui, on a prévu de constituer un stock, alors des souches, je ne sais pas si c'est que des souches, enfin c'est des souches ou des branches ou du combustible futur qui va servir aux phases de test, aux phases de démarrage. Oui. On est sur une plateforme qui a été destinée à cet usage-là depuis l'origine.
Il est question d'environ 1000 hectares de couperas par an qui seraient nécessaires au fonctionnement de l'usine, c'est à peu près ça ?
Alors, tous les ans, il se produit sur ce massif, totalement en dehors de ce projet-là, des couperases qui sont issues de l'exploitation forestière des autres acteurs de la filière bois. Nous, en tant qu'acteurs, futurs acteurs, j'espère, de cette filière, notre sujet n'est pas du tout de faire des couperases, au contraire. C'est plutôt de travailler les massifs existants pour les valoriser, pour les développer. Donc nous, on est derrière une coupe rase qui aurait été autorisée ou qui se produit, je pense que 1000 hectares, c'est un chiffre très faible, c'est beaucoup plus dans l'ensemble du périmètre qui nous intéresse. Hein. Les coupes rases qui sont conduites ne sont absolument pas le fait de ce projet, mais sont le fait de cette activité forestière existante depuis de très nombreuses années dans le massif, de toute façon. Et justement, un des problèmes de ces nombreuses coupes rases, c'est que souvent, la propriété forestière est extrêmement morcelée dans cette région. Donc, les propriétaires qui ont vendu le bois et qui ont eu l'autorisation de conduire ces coupes rases, derrière, n'ont pas toujours les moyens de replanter. Donc, le principe de récupérer cette matière non utilisable par les autres, de la valoriser d'une certaine manière, est un moyen de replanter, au contraire. Hein, est un moyen de revaloriser, de reconstituer une forêt avec un potentiel derrière.
D'après ce que disait Monsieur Le Guen à donc des habitants du hameau à côté, ça ferait un tonnage qui serait qui donne un calcul de plusieurs dizaines de camions par jour sur place pour apporter cette matière à l'usine.
Bah, pour amener la matière à l'usine, effectivement, il faut des camions. Après, elle repart en train. Donc, les camions, il en circule énormément dans le massif aujourd'hui. Donc, effectivement, un certain nombre de ces camions qui circulent dans le massif aujourd'hui s'arrêteront ou passeront par la plateforme de Bugin, ce qui est assez naturel et assez classique dans le contexte local de cette région.
L'intérêt économique et le directeur de Carbon Ingénieur, enfin du consortium, le présente dans une vidéo. Lui, il dit notre démarche est écologique parce que notre matière première, c'est du bois et donc énergie renouvelable, donc pas de taxe carbone. Et toute l'économie du projet, c'est de dire à EDF, eh ben, vous payez une taxe carbone, là vous n'en payerez plus puisque la matière première est une matière renouvelable. On passe sous silence le fait qu'il va falloir faire tourner 10 000 camions et qu'il va falloir de l'électricité, de l'eau, enfin des ressources qui...
L'électricité nucléaire, donc il y a de l'énergie renouvelable partout dans ce projet. Que du pétrole à la base pour faire tourner les trains, les camions, les véhicules de chantier, les pelleteuses pour dessoucher, les porteurs, les têtes d'abattage, quelques tronçonneuses. Là, on a vraiment de l'énergie renouvelable pour faire du charbon au bout du chantier.
Parce que son gros argument, c'est de dire « mais le bilan carbone de mon entreprise est positif, je suis dans les normes environnementales ». Alors que quand on regarde bien son projet, on utilise de l'énergie fossile pour fabriquer soi-disant une énergie renouvelable. Mais ça, il n'en tient pas compte, puisque en fait, ils ont séparé, par exemple, le collectage du bois, enfin des rémanents sur les sites, n'est pas inclus dans son bilan énergétique.
Ce sont des matières organiques qui restent sur place et qui, à présent, avec ce projet, ne resteraient pas sur place.
Bah, matière organique qui reste sur place, qui reste en forêt, ça a quelques avantages et quelques inconvénients. Le bilan carbone des sols peut être un peu amélioré. Par contre, il évite la replantation sur une partie du sol. Et beaucoup d'experts considèrent que c'est plutôt une nuisance qu'autre chose de laisser ces matières se décomposer sur les sols. Qu'une partie reste à se décomposer sur les sols, ça peut être bénéfique, mais les volumes importants qui sont aujourd'hui laissés en jachère, en andin, hein, pour dire les choses suivant le terme des forestiers, ne sont pas des très bonnes pratiques à ma connaissance. Et au contraire, le principe de récupérer ces matières dans de bonnes conditions et de les traiter en de bonnes conditions, tous les spécialistes pensent que c'est aujourd'hui une bonne pratique. Enfin, ça fait partie plutôt des bonnes pratiques de récupérer ou d'enlever. Je rappelle juste qu'il y a une obligation, théoriquement, les gens qui vendent leur bois, donc qui pratiquent une coupe rase ou une coupe partielle de leur bois, doivent derrière replanter. Une obligation de replanter. Cette obligation, elle est plus ou moins respectée aujourd'hui pour des raisons économiques. Difficultés économiques de cette filière qui est pas simple. Donc je pense que cette pratique de valoriser ce bois, qui est de toute façon valorisé en partie aujourd'hui avec des plaquettes forestières normales, hein, classiques, bon, pourra peut-être être renforcé et amélioré par un projet comme celui qu'on développe.
Donc pour lui il se présente comme vraiment écologique, et en plus, cerise sur le gâteau écologique, il annonce qu'il veut, il va dépolluer le site, le site actuellement est pollué. Le site de production, il est pollué par tous les résidus de broyat de pneus de camion qui ont été laissés à l'abandon. Le site, il est à l'abandon depuis 7 ans.
Alors c'est vrai aussi qu'ils ont un argument extraordinaire, donc c'est de dire oui, mais on va créer des emplois. Ouais. Et donc dans cette région qui est quand même à la recherche de travail, un emploi, c'est on peut pas passer, détourner la tête sans se dire oui, un emploi, ce serait intéressant. Alors déjà, ils annoncent 20 emplois, mais on ne sait pas du tout ce que c'est ces 20 emplois. Est-ce que c'est des emplois que des gens d'ici pourraient éventuellement remplir, ou est-ce que c'est des emplois de personnes qui seront importées? Bon, on n'en a aucune idée. Est-ce que ce sont des emplois pérennes? On ne sait pas non plus. Est-ce qu'il en créera réellement 20? C'est difficile à dire.
Où est-ce qu'il fera venir des gens d'ailleurs et qui travailleront sur le site de Bugeavian, mais qui ne seront pas embauchés en fait? Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ce site peut effectivement exploiter. Il peut y avoir 20 personnes sur le site qui travailleront, mais combien autour de ce site d'emplois seront détruits à cause de cette usine? Ça, c'est un calcul que, bien sûr, ils n'ont pas fait.
Donc oui, on va prendre tout l'humus pour nourrir la terre et les futures régénérations naturelles de feuillus. Et après, on va faire de la phytosanitaire, c'est-à-dire qu'on va implanter des engrais chimiques pour remplacer cet humus qu'on va prélever. Donc après, toute la biodiversité, bien entendu, va être menacée. Les plantes, les fleurs, les insectes, tous les animaux, ils retrouveront plus de refuge ni rien. Et puis, c'est pas une ressource limitée dans le temps. Un feuillu, il faut 50 ans pour qu'il vienne. Un petit rémanent, il faut 20 ans pour pouvoir l'exploiter et tout. Donc ça va être un désastre au niveau écologique.
Alors ce que nous a expliqué encore Monsieur Le Guen pour parer cet argument, c'était de dire oui, mais le refus de criblage, c'est-à-dire ce qui reste, tous les débris, les poussières, etc., qui restent après le broyage, va être réutilisé pour amender les parcelles. C'est-à-dire que quand ils vont faire les rotations pour extraire la biomasse, eh ben, les camions vont rapporter le refus de criblage.
Le rebut.
Et ça va être répandu sur la totalité de la parcelle. Et donc, ça va être même mieux que les andins, parce que les andins, c'est que sur ligne, alors que là, ce sera répandu sur la totalité de la parcelle.
Voilà. Donc, il prétend, lui, avoir une réponse écologique. En fait, il est impressionnant, parce que quand on l'écoute, il y aura moins de bruit qu'avant, il y aura plus d'écologie qu'avant. C'est un monde absolument merveilleux grâce à son industrie. Nous, on n'en croit pas un mot de ça.
Donc au niveau de la poussière, donc du broyage de tous les rémanents qu'ils vont amener, les souches et tout le Bataclan, ils vont reprendre ça, par miracle, ils vont le reprendre dans des camions et ils vont mettre des épandeurs, ils vont répandre ces trucs au lieu de laisser la matière première qui est existence directement sur le truc, toujours avec des matières fossiles pour faire tourner les camions et reprendre les poussières pour les épandre là où ils auront tout dévasté. Voilà. En plus, ils veulent replanter, mais que de la monoculture, c'est-à-dire maximum de résineux, ce qui intéresse forcément les gros propriétaires terriens.
Comment vous imaginez convaincre les propriétaires forestiers de vous vendre leurs rémanents?
Non, je n'ai pas de stratégie particulière pour convaincre. Je pense que le problème ne se pose pas tout à fait en termes de convaincre. On offre des services, on valorise une matière. Il y a un intérêt commun. De toute façon, d'ores et déjà, beaucoup de propriétaires forestiers sont pratiques ce genre de choses, remettent leur terrain en état. Vous êtes propriétaire d'une parcelle petite ou grande, vous vendez votre bois, vous voulez replanter, vous voulez améliorer un taillis, parce que bon, une bonne partie quand même de la forêt de ce secteur, c'est du taillis qui est issu de la déprise agricole, hein, et qui a poussé sans aucune organisation. Et donc ce taillis, il a besoin d'être replanté ou d'être amélioré ou d'être valorisé. Donc il y a plein de gens qui ont des besoins, et donc on se positionne aussi comme un entrepreneur comme d'autres, avec un réseau de partenaires et d'entreprises locales qui travaillent dans ce domaine-là et qui sont en capacité aujourd'hui de valoriser. Donc on n'est pas dans une démarche de conviction, hein, on est dans une démarche d'intégration dans une filière.
On nous a expliqué aussi que la différence entre le granulé du commerce que Farge et les usines Farge et EO2 produisent, et ce pellet torréfié tient essentiellement à la torréfaction, c'est-à-dire avec la torréfaction, on augmente l'indice calorifique de ce pellet, puisqu'on en élimine l'humidité. Alors eux, ils sont très intéressés... Enfin, les centrales EDF, etc., sont très intéressées par ce produit parce qu'il est beaucoup plus résistant, il est beaucoup plus stable en indice calorifique. Parce qu'actuellement, la filière granulée a un gros problème, c'est que les granulés sont difficilement stockables parce qu'ils absorbent l'humidité et que du coup, leur caractéristiques de calorifiques varient beaucoup. Et du coup, eux prétendent, avec ce procédé de torréfaction, résoudre ce problème. Le souci qu'ils ont, c'est que ce marché du pellet torréfié est actuellement détenu par une société américaine, la société Zilka, hein, le site Zilka dans le Montana. Et eux veulent arriver en concurrence de ce produit. Mais... Nous, ce qui nous inquiète, c'est que cette société Zilka, visiblement, elle se contrefout des dégâts écologiques qui sont générés autour de l'usine de production dans le Montana. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que pour concurrencer un acteur qui se contrefout de l'environnement, il faut forcément maîtriser les coûts. Et je pense que... toutes les promesses liées à l'environnement qu'ils nous font ne tiendront pas économiquement. Parce que si ils ont à cœur, si on peut leur faire confiance, si ils essayent d'être moins polluants, ils seront forcément plus chers. Et qu'aujourd'hui, la logique économique et capitalistique fait qu'on va toujours au moins cher, on va toujours au plus rentable. Et que déjà, ils viennent en concurrence avec une société qui, visiblement, se contrefout complètement des dégâts écologiques qu'elle produit.
Alors, je suis allé sur leur site internet, à cette société Zilka. Ils s'affichent comme écologistes aussi, bien sûr. Bien sûr, et ils exportent beaucoup en Europe leurs produits, parce qu'en Europe, il y a pas mal d'entreprises qui cherchent à calculer leur bilan carbone et que dans les calculs officiels, faire venir des arbres transformés en charbon aux États-Unis par bateau jusqu'en Europe, ça reste écologiste et encouragé par les normes sur le carbone et tout ça. Ils s'affichent en tout cas comme une entreprise tout à fait écologique. Bon, comment ça réagit à Viam ? Parce que j'ai appris que Jean Ducoin disait Viam. Vous dites que ça fait quand même 2-3 ans que vous en entendez parler, parce que autour de la table, il y a Pierre, Catherine et Alain qui n'ont pas la même ancienneté en Corrèze. Disons, Pierre, ça fait 53
ans que je suis sur la commune de Viam.
Et vous ?
Nous, ça fait qu'à peine un an et on dit Vian, nous, on ne dit pas Viam. mais ça réagit... en fait, il y a un peu comme partout les pour et les contre. Il y a des gens comme nous qui sommes sensibles à l'environnement et qui nous disons c'est pas possible, on peut pas tout détruire au nom de l'emploi, on peut pas faire n'importe quoi au nom de l'emploi.
Et qui avaient quitté une grande ville pour justement trouver ici peut-être un environnement
Tranquille. Oui, tranquille et puis extraordinaire. C'est vrai que la Corrèze, le plateau de Mille Vaches, c'est quand même un endroit fabuleux. Alors, on n'est pas non plus, on est des néo-ruraux, c'est évident, mais on n'est pas non plus accrochés à notre petite maison en disant rien autour de nous. Mais moi, je ne suis pas contre le fait qu'une usine ou de l'industrie ou de l'artisanat s'installe sur la zone, parce qu'on est bien conscient qu'il faut des emplois. Mais au nom de l'emploi, on ne peut pas détruire la forêt, on ne peut pas polluer des sites, on ne peut pas... Enfin, il y a un moment, il faut quand même essayer d'être un peu raisonnable. Alors, il y a des gens d'ici qui disent il va y avoir l'emploi, donc ça c'est important. Il y a aussi, je pense, des gens qui ont des exploitations forestières, ils ont du bois, donc ils se disent après les coupes rases, on va pouvoir vendre tout ce qui reste. Jusqu'à présent, on le laissait se décomposer et là on va pouvoir le vendre, donc on va en tirer un petit peu d'argent. Donc allons-y, ne nous privons pas de ces revenus. Donc il faut être honnête, une partie de la population. Moi, je pense que les maires, entre autres, sont très favorables au nom de l'emploi à cette installation.
J'ai téléphoné à Michèle Guillou, mairesse de Viam. Elle n'a pas souhaité parler à la radio de ce projet. Elle nous a envoyé les comptes rendus du conseil municipal de la commune et le document que la Somival leur a remis. Document que vous pouvez donc retrouver sur le site internet radiovassivière.com.
Donc moi, en tant qu'ancien du pays, on a déjà été chaudé avec un site Céveso, un recyclage de pneumatiques qui s'était monté il y a 8 ans, sur le site actuel qu'ils veulent récupérer pour faire leur pellet torréfié. Donc on est chaudé et c'était toujours le prétexte, l'emploi. Et puis l'emploi, ils s'en foutaient, c'était juste pour récupérer des profits. Et détruire l'environnement et l'emploi inexistant. Il y avait 20 ouvriers. C'était des ouvriers en contrat à durée déterminée. Donc je ne vois pas le rapport au niveau de l'emploi. Le pays comptait 2000 ouvriers, il comptait des centaines de commerces. En l'espace de 40 ans, ils ont détruit toute l'économie. Tous les politiciens, tous les conseils, tous les maires qui sont passés, ils ont tout détruit. Au pays, ça a été une catastrophe. Bugeat, puis un seul commerce, puis un seul magasin. Viam, il y avait 6 artisans détruits en l'espace de 20 ans. Donc là, la manne, 20 ouvriers, mais à quel prix les 20 ouvriers? En détruisant le plateau? Le parc régional? En le détruisant? En prenant tout, les animaux, les détruire, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, qui sont atteints comme nous par les maladies, par les prédateurs, c'est-à-dire l'humain, les insectes, la biodiversité, à ce prix-là, 20 emplois? Ben non.
Puis on peut se demander aussi quelle va être la durée d'exploitation de l'usine, parce qu'on a posé la question à Monsieur Le Guen en lui disant « Mais la ressource sur le plateau, elle n'est pas extensible. Vous parlez, si je ne dis pas de bêtises, de 1000 hectares oui. par an de coupes rases. Donc moi, je ne sais pas combien il y a d'hectares de bois sur le plateau, mais ça ne va pas durer 150 ans. » Et là, il a été très clair en nous disant « Mais ce n'est pas un problème, parce que quand il n'y aura plus de ressources, on ira ailleurs. On est déjà en pourparlers avec Cuba et avec l'Europe de l'Est. Donc on ira s'implanter là où il y a de nouveau de la ressource. Ce n'est pas un souci. » Donc en fait, ils sont prêts à expérimenter leur usine, à faire cette installation-là, cet équipement, et puis dans quelques années, alors c'est 5 ans, c'est 10 ans, j'en sais rien, à tout laisser et à partir. La difficulté, c'est, je trouve qu'on a aussi, c'est de... Les gens nous disent, mais vous, ça fait à peine un an que vous êtes là, de quel droit est-ce que vous vous permettez de dire il faut une usine ou il ne faut pas une usine? C'est pas parce qu'on n'est pas là depuis 20 générations qu'on n'est pas capable de se rendre compte des dégâts que ça peut faire. On est bien conscient que Les emplois, c'est important parce que les gens, ils veulent vivre au pays, ils veulent rester ici, et c'est pour rester, il leur faut de l'emploi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, cet emploi, c'est pas à n'importe quel prix, c'est un endroit inimaginable. Des fois, je me dis, mais est-ce que les gens qui vivent ici depuis leur naissance, ils ont conscience que c'est extraordinaire, qu'ils ont un endroit pour vivre qui ne doit pas être saccagé au nom de n'importe quoi et principalement au nom d'intérêts économiques. Et ça, c'est difficile pour nous à faire passer parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est des espèces de néo-ruraux accrochés à leur petit paradis et qui veulent rien voir autour. Mais ce n'est pas ça. Oh, il y a un joli tag là, dis donc. Qui est usine appelée égale déforestation totale. Mais ils sont pas allés de main morte.
Nous prenons la grande route, la D979, qui va d'Émoutiers à Bugeat.
Ouais, parce que l'entrée du site et l'entrée de la gare Bois se trouvent sur cette route. C'est une départementale ou une nationale ?
C'est une départementale.
Une départementale.
Il y a des souches.
Il y a déjà des souches. Parce qu'effectivement, la société qui doit s'implanter sur le site, elle a déjà apporté des souches. Je ne sais pas combien ça fait, mais enfin, il y en a déjà un petit paquet. J'imagine que c'est pour dire, vous voyez, on est déjà... Vous ne pouvez rien faire contre nous, on est déjà là.
Alors, on est sur le terrain de la CIMA, pour l'instant.
Oui.
Société d'aménagement qui est en train de vendre au consortium. Bonjour. Ça tourne parce qu'on... Donc Yann de Radio Massivière.
Enchanté.
Merci d'être là.
Et voilà la matière fertile de la forêt qui aboutit sur une place de dépôt là en attente d'être broyée par de l'électricité nucléaire et transportée par des gros camions qui bouffent 100 litres de fuel toutes les heures. Des grosses souches avec des pierres, des cailloux, tout ce qu'on veut.
Alors déjà, au niveau légal, on peut se poser déjà la question. Ils n'ont pas acquis le terrain. Le terrain, le notaire, ça n'a pas été signé et ils entreposent déjà leur matériel. Donc ça donne déjà un peu une idée de la technique employée. C'est-à-dire la mise devant le fait accompli.
Ouais, le terrain, il appartient à la société d'aménagement
CIMA 89,
qui est plutôt d'accord pour vendre.
Oui, mais qui n'a pas vendu, qui a peut-être autorisé.
Ils ont dû donner l'autorisation, j'imagine.
Mais on est quand même sur une technique que les industriels emploient de plus en plus pour imposer leur projet. C'est la technique du fait accompli. C'est-à-dire, ça veut dire aux gens, regardez, là, ça va se faire parce qu'on est déjà en train d'entreposer. Il y a un phénomène un peu irréversible. Et je pense que c'est inquiétant comme méthode.
Le terrain est propriété de la société publique CIMA 89 qui est en train de le vendre à CIBV. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est, à quel prix vous achetez cela environ ?
Écoutez, le prix, ça fait partie des choses qui restent confidentielles. Le projet, le syndicat a délibéré. On est en train de régulariser des actes de cession à la société de projet. Bon, c'est... Les choses avancent, mais avec des conditions suspensives, de toute façon, en fonction du montage du projet. Bon, je pense que ça a fait l'objet de décisions et d'options qui ont été prises. Aujourd'hui, l'acquisition n'est pas définitive, de toute façon, sur cette plateforme. Mais cette plateforme existe. Hein. C'est quand même un point, je pense, qu'il faut bien souligner. Cette plateforme existe, a été créée par la volonté publique pour faire du développement local. Et donc aujourd'hui, on transfère, à la fin d'ailleurs, peu importe que cette plateforme reste ou pas la propriété d'une collectivité locale ou soit privée, entre guillemets, dans une société de projet, ce qui compte, c'est qu'elle soit utilisée et qu'elle soit valorisée.
Alors Bertrand Collineau, vous êtes à côté avec une ferme équestre qui s'appelle le Petit Canada. Vous connaissez bien ce site ?
Ben oui, parce que moi j'ai été directement touché par le premier projet qu'il y a eu d'usine de pneus, qui est passé exactement de la même manière, c'est-à-dire en huis clos, quoi. Et nous, on a été complètement sinistrés sur notre activité. Et on s'est battu pendant 5 ans pour essayer de sortir la tête de l'eau. Il s'est trouvé qu'à l'époque, la personne qui avait monté cette usine de pneus n'était pas tellement aux normes environnementales. Ça avait été fait avec l'accord de l'ADEME, je crois, et puis de la DRIR à l'époque. Et là, on demande justement des comptes avant que ça existe, quoi. Voilà.
Il y a des souches et des rémanents du bois, en tout cas, qui est sur place. Est-ce que vous avez prévu d'expliquer aux habitants ce que vous pensez faire prochainement ?
Dans un projet, il y a des phases de présentation, il y a des phases d'études et après, il y a des phases de présentation. Je considère aujourd'hui, on est encore en phase d'études. La phase d'études, elle n'est pas achevée. Après, il y a une phase administrative. Les premiers qu'on interroge, en général, c'est les autorités administratives qui ont en charge le respect des règles environnementales. Donc on est à la phase consultation qui vont orienter le projet d'une façon ou d'une autre. Puis après, il va y avoir des phases enquête et puis des phases présentation du projet, etc. à la population. Les élus sont au courant parce que c'est leur boulot. On a eu depuis l'origine du projet des contacts avec tous les élus régionaux qui ont été associés, enfin même qui ont pour certains même initié le projet, je dirais, parce que encore une fois, on est dans un projet qui à l'origine a comme objectif de valoriser un territoire à partir de ses ressources naturelles et de ses ressources humaines aussi. Hein. Donc il y a un tissu d'entreprises qui travaillent sur ce secteur. Il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui techniques, environnementaux et économiques qui se posent autour de l'exploitation du massif forestier dans cette région. Et on s'insère dans cette problématique globale avec une solution qui n'en est pas forcément une, mais avec une contribution en tout cas à l'amélioration de la filière bois en général dans ce secteur.
Vous savez déjà ce qui est projeté là exactement?
Ben là, il y a 25 hectares de zone. Il y a 25 hectares de zone, donc ou 27, oui. Donc là, apparemment, le bâtiment qu'on voit là, ça va être un lieu de
stockage.
Oui, de stockage et puis d'atelier, je crois. Ils veulent faire un atelier à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, à 400 mètres d'ici, là, il y aurait l'usine près de la voie SNCF, puisque normalement, ça doit partir par... Enfin, les granulés doivent partir par voie ferrée.
Voilà. Oui, sur un tapis roulant, en fait. Sortirait de l'usine par un tapis roulant et serait acheminé à la gare Bois, qui est un peu en contrebas. Et les trains seraient directement chargés avec un tapis roulant.
Donc ces hangars là, deux gros hangars, avec juste le toit, pas les parois, ça date de quand? Ça servait à quoi? C'était quoi? Alors, l'idée?
Ça, c'était les hangars qui avaient été construits pour broyer les pneus, pour qu'ils aient les broyeurs couverts, enfin hors intempéries. Le seul problème, c'est que à l'époque, le permis de construire de ces hangars avait été signé sans qu'ils soient fermés, sans qu'ils puissent être fermés, ce qui était une aberration, puisque à l'époque, on était déjà en procès pour qu'il n'y ait plus de bruit, alors que c'était vraiment infernal à 5 km à la ronde. Et ce bâtiment-là avait été accepté sans bardage extérieur, donc sans cloisonnement anti-bruit. Voilà. Et donc ce bâtiment-là est là en attente.
Parce que ce qu'il faut savoir, qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que la carte d'étude d'impact acoustique n'a pas été réalisée par la société Carbon Engineer, là, par les pellets torréfiés. Mais nous, on n'a pas besoin de refaire une étude d'impact. Quand il y a eu le broyage de pneus de camion, il y avait des bruits d'intensité un peu moindre d'ailleurs. On était plutôt sur des bruits de 100, 110 décibels. Mais tous les habitants des hameaux environnants entendaient le broyage de ces pneus. Tous les gens s'en plaignaient. Donc l'étude d'impact, elle est déjà faite. On l'a déjà vécue et les gens ont déjà subi ce bruit intense. Les élus de la communauté de communes et des communes environnantes sur le plateau sont soulagés, sont satisfaits qu'une entreprise comme Carbon Engineer vienne s'installer sur le site de la Garbois, parce qu'en fait, ça leur permet de justifier a posteriori la création de cette Garbois et surtout d'en trouver une utilisation, parce que depuis 1999, cette Garbois n'a quasiment pas fonctionné. Donc ils sont satisfaits, ils sont soulagés et ils sont, à ce titre, favorables à ce projet.
C'était un reportage sur le projet d'usine à granulés de bois de Vian en Corrèze. Si vous avez envie de parler de ce projet sur l'antenne de Radio Vassivière, c'est possible. Contactez la radio au 05 55 64 71 11 ou par mail à info@radiovassivière.com. Et si vous avez raté des morceaux et que vous voulez écouter le reportage en entier, il est sur le site internet radiovassivière.com. À bientôt.